Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdivois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et aussi en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes avec Santi. Bonjour.
Bonjour.
Santi, tu es connu pour ta musique et aussi les mosaïques. Et pour ça, tu es là au studio pour nous apprendre donc un stage d'initiation qui va avoir lieu les prochaines semaines. Donc, ce sont des stages qui permettent aux enfants, entre autres, c'est-à-dire à partir de 5 ans, de revenir avec un objet de sa confection lors de ces 3h30 d'atelier. C'est avant tout un stage de mosaïque de verre. Alors, cette mosaïque, on peut peut-être expliquer ce que c'est et puis aussi les débouchés que ça amène.
Tout à fait. D'abord, je voulais dire que le métier principal, celui de ma femme, nous sommes verriers et vitraillistes. C'est-à-dire que nous faisons les vitraux, autant la restauration que la création. Et puis, la musique, c'est un ancien métier qu'on garde sous le coude, mais avec un grand plaisir ici pendant la saison. Et suite à notre récent déménagement de Châtillon, Indivois, à Luc, Indivois, on propose dans le nouveau atelier, les nouveaux emplacements, ces stages que je me permets de dire, sans peur de me tromper, un peu révolutionnaires et avant-gardistes, dans le sens où ça donne l'accès à une expérience avec le verre à des enfants de très jeune âge, parce que notre méthode est très, très... mise à point et puis graduée en fonction de la difficulté des compétences de l'élève. Et c'est ainsi qu'on peut proposer à des gens entre 6 et 106 ans, on va dire.
Le verre, c'est donc le matériau principal. Ce verre, comment se retrouve-t-il entre tes mains et comment tu l'as ?
Alors, le verre, on peut acheter du verre teint à la masse dans le commerce, enfin spécialisé. Et nous faisons une série de transformations aussi dans notre four à verre avec des oxydes et on travaille une certaine palette nécessaire à la restauration des vitraux, c'est-à-dire c'est les mêmes techniques ancestrales qu'on remet un peu au goût du jour pour les créations, mais aussi pour la mosaïque de verre, c'est-à-dire il y a des tonalités qui ne se retrouvent pas dans le commerce. Mais notre stage de mosaïque de verre, autre que le verre transparent qu'on va travailler, parce qu'on va réaliser un médaillon qui va être un petit vitrail avec toutes ses propriétés, c'est-à-dire filtrer la lumière, créer un spectre lumineux. Donc pour cela, on va utiliser uniquement le verre transparent, hein, parce qu'il y a plusieurs familles de verres, chacune elle a sa fonction, etc. Et puis une autre particularité de notre stage, c'est qu'on ne touche pas avec les mains, les tesselles de verre, on les donne pré-coupées, et on ne touche pas avec les mains ou ses doigts, les tesselles, il y a un bâton spécial qui fait le travail, qui nous permet autant la précision qu'échapper à tout risque de se piquer ou de presser trop fort une tesselle avec les doigts. Voilà.
Ces verres, justement, tu parles que vous travaillez certaines teintes avec votre four. Les températures de ce matériau, à quelle température, justement, devient-il liquide ?
Alors, le verre, il devient plastique. Il passe à l'état plastique aux alentours de 740-750 degrés. Avant, il se ramollit Donc, entre 500 et 650, on va voir la peau du verre se ramollir, mais pas la masse. Et c'est là que la peinture, elle va être fixée, elle va pénétrer jusqu'à un certain point dans la masse du verre. Et après, en refroidissant, ça va solidifier. Et puis, la peinture va rester intégrée au verre à jamais. Ça, c'est le traitement traditionnel du verre qui arrive à nos jours avec les anciens vitraux, etc., qui ont prouvé leur stabilité, leur équilibre dans la matière. Et puis après, il y a d'autres éléments qui interviennent, qui sont plus nouveaux, comme des peintures à froid aujourd'hui qu'on propose dans le commerce. Nous, on n'utilise que des peintures permanentes qui vont rester à jamais. C'est notre fonction parce que le verre, il est destiné autant quand il est serti avec le plomb ou le ciment, il est destiné à traverser le temps avec bonheur et donc il doit être préparé et jamais ternir. C'est pour cela qu'on travaille dans les alentours de 650 degrés dans notre four.
Des teintes, je pense que vous en avez une myriade de coloris. Vous avez un catalogue. Est-ce que vous proposez même des couleurs? Vous dites en fabriquer par vous-même et vous proposez certaines teintes en catalogue?
On pas à ce point-là, bien qu'on est certain de faire certaines couleurs très difficiles à voir. Mais bon, peut-être avec les stages, des fois, il y a des demandes, mais... Pour l'instant, on l'utilise à l'atelier, c'est-à-dire que les élèves qui viennent faire les stages, ils ont accès à une palette assez importante dans le cadre du travail. Et puis, il y a des possibilités aussi d'aller vers des choses insoupçonnées, souvent avec les clients, en cherchant des choses ou simplement en essayant de retrouver des éléments qui sont inscrits dans le cadre de l'histoire, des teintes ou des effets qui nous ont laissé les ancêtres.
Est-ce que tu pourrais nous donner un certain nombre de couleurs répertoriées chez vous ?
Il y a des couleurs, tout ce qui est la... Nous, on travaille les oxydes, et les oxydes d'argent, oxydes d'or, oxydes de... Et manganèse, ça donne de cuivre aussi, et ça donne tout ce qui est la gamme des chaudes. Ça va du rouge à l'orange pâle, rouge brique, puis toutes les sortes de jaunes, cramés et pas cramés, etc. Pour les couleurs froides, les violets, les cobalts, tout ça, le traitement est plus difficile. On n'a plus accès à des verres teints à la masse du marché, plus recours à ça. Mais il y a certains produits, des grisailles bleues, etc., mais pas en transparence. Après, il y a les aimants. Les aimants, c'est une autre famille de verres. On travaille relativement peu, parce que ce n'est pas admis par un monument historique dans le cadre de la restauration. Et les aimants, ils ont des nouvelles tonalités transparentes, mais c'est des produits pas tout à fait stables. On ne sait jamais s'ils vont durer 100 ans, 150 ans, 40, 20. C'est long. Les teintes de verre, combien on en a? Je pense qu'on en a dans les 300 ou 400. Et après, c'est long arrivage. Des fois, on achète un lot de verre et après, il s'épuise. Mais notre plus grand souci, c'est de créer notre propre matière première. Et puis, si c'est pas, elle n'est pas vraiment un spectre complet, au moins nous appuyer dessus pour agrémenter les autres couleurs et s'appuyer sur là où l'on peut faire le mieux.
Est-ce que la verrerie a souffert de la modernité?
Oui et non. Et ça a bénéficié surtout la verrerie en général, du fait des fours électroniques gérés par ordinateur. Ça a tout changé. Parce qu'avant, un four à verre, c'était très compliqué, très onéreux, très imprévisible. et avec des résultats très médiocres, des fois très, 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 très difficiles à maîtriser. Les verriers, ils dévoraient des forêts entières. Autant les familles des gens qui soufflaient le verre, qui avaient un chrysole chez eux, comme les gens qui fabriquaient le verre à vitrail, etc. Donc le verre, il était associé à une espèce de dévastation forestière de très mauvaise longue dans les siècles passés. Aujourd'hui, après la révolution industrielle, avec les premiers fours à 1900 et quelques, ça a beaucoup changé. Et puis la qualité de la peinture, ça s'est beaucoup améliorée aussi.
Alors, vous répondiez oui et non. Là, c'était le non. Et, par rapport à ma question, est-ce que...
Je pourrais dire, par rapport au reste, les verriers... Bon, l'histoire du verre, elle est assez complexe, et notamment en France, du fait que, disons qu'après la Renaissance et le Baroque, le verre a connu deux siècles d'oubli. Il a sombré dans le... un peu dans les désuétudes. Les grands maîtres sont partis à l'étranger. Ça s'est passé entre 1650 et 1830, on va dire, et jusqu'à l'arrivée de Viollet-le-Duc, Prosper Mérimée, qui ont fait un relèvement des vitraux et qui ont remis à la page les vitraux médiévaux, puis avec la création du néo-gothique, etc. Jusqu'à ce moment-là, la notion des monuments historiques, elle n'existait pas. Donc quiconque qui trouvait une église avec des vitraux vieux, il pouvait les mettre à la poubelle, même si c'était des... Et après, ça a été protégé, etc., et remis à la page, et puis remis à sa juste valeur, etc. Mais bon, et le vitrail a recommencé à exister de manière importante en France après ces renouveaux de Viollet-le-Duc, la restauration de Notre-Dame, le concept de monument historique, de patrimoine, qui a été soufflé sur les vitraux, que jusqu'à présent ne jouissait pas de ce statut. Et puis, juste après, révolution industrielle oblige, les ateliers médiévaux se sont transformés en manufactures pendant toute cette période. Ce qui a fait que beaucoup des choses se sont améliorées parce que le travail s'est cloisonné. Donc, on va dire que les gens qui s'occupaient du four, ils s'occupaient que du four. Et les peintres sortaient des académies, ils faisaient les drapés, etc. Ils connaissaient tous les proportions, ils avaient une formation solide. Et puis les commerciaux, ils faisaient des catalogues, ils vendaient au monde entier des vitraux faits en France qui partaient dans les bateaux, etc. Ça a permis... Mais bon, tout ça, ça a connu un siècle d'or, enfin, jusqu'à la Première Guerre mondiale et puis la Seconde. Voilà. Et aujourd'hui, les manufactures sont pratiquement disparues. Et en quelque sorte, on revient au format médiéval de l'atelier familial où le maître doit tout faire, depuis décrocher le vitrail dans le plâtre jusqu'à la peinture du visage, etc.
Et puis, en début d'émission, Santi, tu nous parlais de la transparence de ce verre pour les mosaïques. Tu nous citais aussi d'autres types de verres, plus ou moins opaques. Et quelles sont justement leurs utilisations? Est-ce qu'on les trouve aussi quand même dans le domaine du vitrail?
Oui, bien sûr. Disons que le verre transparent, c'est un peu la feuille blanche où l'on va imprimer des lignes ou des couleurs ou des opacités ou des nappes qui vont faire, qui vont animer cette transparence ou non, et ou combiner avec transparence, avec opacité, etc., comme on combine lumière avec ombre, silence avec musique, etc. Et dans le cas de la transparence, oui, il y a trois familles de verres principalement, c'est-à-dire le transparent, le opaque et le translucide. Et après, il y a des combinaisons entre eux. Mais pour ainsi dire, dans le vitrail classique médiéval et d'une manière générale, on utilisait la transparence, le opaque et le translucide de manière à créer trois plans, dans lequel le opaque venait dans le premier plan, le translucide prenait la place du deuxième plan et le transparent, le troisième plan de fugue derrière. Et comme ça, on obtenait une ordre de profondeur. Et c'était comme une loi dans laquelle on travaillait les images. Parce que bon, voilà, souvent, pendant des siècles, on a représenté des images de manière classique, un sujet, souvent une anatomie, avec ses drapés, avec un entourage, et puis un fond. Donc, les trois éléments classiques de l'art classique, hein, sujet, entourage et fond. Et tout ça, ça fait que voilà, chaque famille de verres a pris une place prépondérante pour occuper une fonction au sein de cette composition. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé avec l'abstrait et on peut se servir de la transparence et de l'opacité d'autres manières différentes. Mais les méthodes des anciens pour utiliser le verre et puis les nappes, les contre-nappes, les enlèvements, les filigranes, tout ça, ça nous vient tout droit du Moyen-Âge.
Fut un temps où on pouvait trouver du vitrail aussi chez les particuliers, dans les bâtiments, les logements. Qu'en est-il aujourd'hui de cet aspect esthétique, d'intérieur? Est-ce que ça revient à la mode?
C'est notre plus grand souhait, nous, verriers, de donner envie aux gens de posséder des objets. Mais pour cela, il faut faire des propositions, bien sûr. Il faut avoir des idées et puis les plasmer. Et c'est le cas de notre atelier de création à Lucan-Diwa, l'UMIDE, que j'invite à visiter à tous les Diwas et Diwases. Nous sommes à côté du relais du CLAPS, place de la Poste, 3 rue du Champ de Mars, Lucan-Diwa. Et nous avons une série de propositions contemporaines, on va dire, destiné à la décoration d'intérieur, des luminaires principalement, beaucoup de luminaires, et aussi beaucoup d'idées pour faire des portes ou des éléments qui vont s'insérer dans le cadre d'une maison, que ce soit une maison de caractère ou une maison moderne. On a toujours des idées, des propositions et des éléments concrets à mettre sur le tapis avant de faire un choix quiconque, des arguments à faire valoir, à étudier, à doser, à quantifier, etc. C'est notre travail parce que, étant donné qu'on crée des pièces qui vont s'insérer dans le cadre d'une architecture, d'un bâtiment, qui vont durer un certain nombre d'années, on est obligé de préparer ça avec le plus grand soin, en tenant compte de tous les éléments autour, des goûts du propriétaire qui va cohabiter avec la pièce postérieurement, des années durant, etc.
Est-ce qu'il existe une limite dans le mode d'expression, dans ce mode d'expression par rapport à la représentation qu'on voudrait donner sur un vitrail ?
Oh là, je pense qu'il n'y a pas de limite. Personnellement, je trouve que la transparence, c'est comme une troisième dimension qui nous pousse vers d'autres plans qui ne sont pas dans une toile ou dans un papier. Ensuite, ces pièces de verre, souvent orientées à la lumière, vont aller d'elles-mêmes, aller se confronter au soleil qui va interagir avec elles et produire des éléments, des spectres lumineux. Donc, quelque part, c'est comme des entités qu'on met à rouler dans le monde et qui vont postérieurement faire leur propre vie, leur propre aventure lumineuse avec l'astre, puis d'autres sources lumineuses qui peuvent l'atteindre, non ? Aujourd'hui, les sources artificielles. Mais voilà, le verre a cette propriété un peu magique d'agir par lui-même. Et nous, des fois, on l'observe émerveillé ou pas, mais on observe.
Comment ça s'opère, cette magie? C'est le mariage de superpositions, de juxtaposition de deux couleurs. Ce sont des critères qui retiennent l'attention pour pouvoir les exploiter.
On aurait envie de tout explorer, de tout regarder. On passe les jours à observer des choses, puis une partie aussi à opérer et à transformer la matière. Mais souvent, il y a une grande partie d'avatar dans chaque pièce qu'on crée et dans chaque élément qu'on va mettre au monde. Parce que le verre, on est tributaire d'un matériau assez rare, limité. On ne peut pas le transformer à volonté. Et donc, il y a une partie de recherche et il y a une partie d'inconnu dans tout ce qu'on fait. Et c'est peut-être ça qui nous pousse sans relâche à aller de l'avant et à chercher et chercher toujours. Sachant qu'on ne pourra jamais tout connaître et savoir exactement ce qui fait 100% à l'arrivée quand on réalise un travail. Il y a toujours des éléments, des fois heureux, qui se rajoutent. Mais voilà, le verre, c'est une aventure en lui-même. Il possède ce mystère. Et on est fiers vraiment du stage qu'on a développé, qui dure seulement 3h30, au bout de laquelle on a réalisé une pièce qu'on va garder pour très 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 longtemps, puisque le verre, voilà, il traverse le temps avec bonheur.
Et puis, le verre a son histoire, avec l'histoire de l'art aussi. Et ça, c'est... indéniablement, vous êtes obligé, vous vous y tenez quand même aussi à cette règle de l'esthétique et de l'histoire de l'art quelque part.
On a étudié l'histoire de l'art et évidemment le verre, ça fait un petit parcours de l'histoire de l'homme comparé à d'autres éléments, d'autres matériaux, comme ça peut être la céramique ou le métal. Le verre, il remonte loin dans les premiers travaux de l'homme. Ça remonte à l'Égypte, on dit la Phénicie, au-delà de 3 ou 4 000 années d'histoire. Mais quand même, ça ne sont pas 50 000 ans où les arts rupestres ou la peinture, c'est un art relativement moderne, mais qui a traversé, bien sûr, tous les avatars historiques et toutes les civilisations qui l'ont traité ont eu affaire au verre d'une manière privilégiée, parce que c'est un élément assez magique, et l'homme s'est aperçu assez rapidement de ça.
Cela fait un certain nombre d'années que tu proposes ce stage avec ta compagne. Donc, c'est une initiation, hein, en premier lieu, avec ces ateliers de 3h30. Et par la suite, il y a ensuite des stages d'approfondissement ou de création, peut-être.
Bien entendu, le stage, il est évolutif. Ça, c'est juste une entrée en matière pour comprendre comment on place... Il y a beaucoup d'informations quand même dans un premier stage pour chercher la figuration d'entrée, etc. On fait une pièce abstraite qui fonctionne très bien pour les uns comme pour les autres, mais à la suite, il y a bien sûr des propositions de réaliser, de résumer des idées, de les traduire au verre pour pouvoir les réaliser avec cette technique de la mosaïque de verre qui est très ludique et qui a des possibilités qui n'offrent pas ni le Tiffany ni le plomb. Et en termes, bien sûr, il faut savoir profiter des avantages et éviter les pièges. Voilà, nous sommes là pour ça, pour éviter les pièges, parce que toute technique a ses avantages et ses inconvénients. Mais par contre, ça offre un tas de possibilités nouvelles, des fonctionnalités pour la maison, pour des objets qui ont des fonctionnalités très variées et très curieuses.
Ces stages, donc, cela consiste à la création d'un médaillon. Hein. De ce médaillon, il y a quand même un certain graphisme au départ. Ça, c'est de quelle portée ? C'est celui du stagiaire qui propose une idée ?
Exact. On voit un médaillon fait par un, dans le cadre du stage. C'est très simple, mais en même temps, c'est complexe parce que le rond, on sait que le rond, c'est la forme par excellence, c'est la forme géométrique qui existait depuis toujours. Les autres, on les a plus ou moins créés, les carrés, les triangles. Et ensuite, notre rond, on doit le cloisonner, c'est-à-dire créer des espaces à l'intérieur. On impose trois lignes. Chacun, il fait trois lignes uniques et différentes des autres. Et une fois à l'intérieur de ces trois lignes, on trouve un cloisonnement. Et dans chaque espace, on va aller placer une couleur. D'abord les primaires, ensuite les secondaires et quelques-uns de plus. Et ça nous permet une étude chromatique léger. Et puis à l'arrivée, voilà, on a rempli notre cercle en tenant compte des lignes qu'on a tracées. Et si on a bien respecté le placement, on obtient le dessin original. Et voilà. Et à voir aussi, c'est difficile à expliquer à la radio, mais bon, je vous invite à passer voir l'atelier ou. Comment ça se déroule les stages par d'autres élèves à l'occasion. C'est très convivial, ça se passe bien dans 99,9% des cas, pour les uns comme pour les autres.
Voilà, et ensuite les joints sont faits soit de ciment ou alors pour les vitraux de plomb. D'ailleurs, qu'est-ce qui détermine c'est certainement un regard artistique qui détermine quand c'est bon pour être coulé, par exemple, le ciment.
Non, faut attendre que les pièces sèchent parce que toute mosaïque, c'est placé sur un support, donc avec une colle spéciale. Donc une fois que tout est bien ferme, là on coule le ciment, mais ça se passe assez rapidement. Des fois on a l'aide du soleil et puis tout rentre dans l'ordre dans les 3h30 sans problème. Et si ça prend un peu plus de temps, on prend une demi-heure de plus, c'est pas un souci. Il y a des gens très pointilleux qui aiment bien vraiment prendre du temps. Voilà, c'est pas une course. Il faut que chacun prenne son rythme et puis voilà, le résultat est à l'arrivée.
Donc ça, à la suite de ces stages d'initiation, comme on le disait tout à l'heure, il y a des possibilités de se conforter dans ce domaine. Les adultes, ils prennent part aussi. Est-ce qu'il y en a qui reviennent aussi?
Absolument, de tous les âges. Et chaque adulte, il a ses propres attentes. Et puis on essaie aussi de voir la disponibilité et les compétences. Et il y a beaucoup à découvrir, je pense, à l'intérieur de l'atelier en termes des matériaux, des couleurs, des textures, qu'en termes de créateur soi-même. On assiste souvent à des découvertes, à des révélations, autant pour les petits que pour les grands. Mais en tout cas, les long de ces 12 ans qu'on démarrait les stages, et on a vu des talents se développer, des enfants qui ont fait plusieurs années des stages évolutifs, qui ont changé leur regard par rapport à l'art en général, mais surtout au verre, aux vitraux, et qui finalement ont opté pour des écoles d'art ou des formations plus poussées dans le vitrail ou dans des techniques proches, etc. Donc nous sommes fiers d'avoir amené ces enfants du plus jeune âge à une expérience du verre que le plomb ou d'autres techniques n'auraient pas pu possibiliter.
Ça éveille en plus un aspect artistique de la personnalité. Et puis, est-ce que justement tu peux travailler ou as-tu travaillé avec des artistes sur un concept?
Mais tout est un défi. Aujourd'hui, on est plus comme au Moyen-Âge que l'Église avait toutes les commandes ou les bourgeois avaient toutes les commandes possibles et on pouvait aspirer qu'à des saints ou des armoiries. Mais c'est à nous de relever le défi, de faire un travail. Oui, évidemment, c'est excitant quand un client, il veut absolument, il a des très solides arguments pour aller chercher un sujet en particulier. Et donc, ça nous excite. On aime bien travailler en amont sur un bloc, sur un papier, les idées, les transformer. Ça, c'est vraiment notre cuisine. Je dis souvent que nous sommes des cuistots. On réalise une cuisine pour les yeux. Il faut que nos plats soient toujours digestes, pour les uns comme pour les autres, qu'ils ne soient pas saturés d'ingrédients, que tout respire, qu'il y a de l'harmonie, de la composition, comme dans tous les arts en général.
Est-ce que dans la conception, est-ce qu'il existe une odeur du verre ?
Ah non, le verre n'a pas d'odeur. Ça, c'est
aucunement, malgré tous les produits utilisés, il y a aucune odeur.
Par contre, non, il y a plein de produits autour du verre qui ont des odeurs. Le plomb a une odeur, la soudure, il y a une odeur. C'est un métier où le plomb et la soudure, c'est des passages assez délicats. Où là, il faut vraiment se protéger parce que les émanations. C'est pas le cas de la mosaïque, mais oui, les odeurs ça abonde, mais bon, ce sont des moments ou des certains passages de la réalisation d'un vitrail. Quand on coupe le verre, par exemple, ça pue pas, mais il y a de la poudre de verre qui se disperse dans l'air et il faudrait pas respirer ça. Enfin. C'est un métier qui demande une certaine
prudence
et puis beaucoup de déontologie aussi.
Donc ces stages ont commencé déjà ?
Ils ont commencé, se déroulent les mardis, les jeudis et les samedis. Exceptionnellement, on a le mercredi 21 à Saint-Romand. On va faire un stage au temple de Saint-Romand. On a mis en place avec la mairie de Saint-Romand une date exceptionnelle. Donc attention, Châtillon, Divois, Manglon et Saint-Romand. Tous les adeptes à la transparence, rendez-vous au temple le mercredi 21 pour une soirée, un après-midi exceptionnel, stage mosaïque de verre.
Côté musique, c'est le calme un peu en ce moment.
Côté musique, en changeant un peu de casquette, on va se présenter avec notre couture cubain, latino-cubain, à la manivelle ce jeudi, pour les jeudis musicaux. Pour les adeptes à la musique latino-flamencoïde et cubaine de Centres, rendez-vous à la manivelle ce jeudi.
Santi, il y a un site internet pour découvrir ton travail, je suppose ?
Oui, un site internet, non, mais une page Facebook. Et alors, la page Facebook, c'est Dos Mundos, c'est un mot tout en attaché, sauf que les deux D sont en majuscule. Hein, c'est un seul mot, Dos Mundos, avec les deux D en majuscule. Et là, il y a toutes les publications, vous allez voir plein de choses, c'est très nourri.
Santi, merci d'être venu nous parler donc des stages de mosaïque de verre qui auront lieu sur Luc en Divois, nouvellement installé. Hein, vous étiez à Châtillon auparavant. Et donc, je te souhaite une bonne soirée.
Merci Yves, merci Air Divois encore une fois à côté de toutes ces belles réalisations. Et puis on vous souhaite à tous les Divoises et Divois une très bonne fin de journée et puis à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.